RFI, minuit 30 à Paris, 22h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Et toute l'actualité africaine, c'est avec Sylvie Berruet. Bonsoir.
Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Le conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo, premier déplacement à Kinshasa en tant que médiateur de l'Union africaine de Fornia Singbe. Le président togolais a rencontré Félix Tshisekedi. Autre visite, le ministre nigérian des Affaires étrangères chez son voisin du Niger. Elle marque le réchauffement diplomatique entre Abuja et Niamey. À Conakry, le procès en appel de l'opposant guinéen Alioubia, de nouveau renvoyé. Ses avocats protestent contre ce troisième renvoi. Nous irons à Bangui où les habitants se préparent à affronter de fortes pluies qui sont attendues dans les prochains jours. À suivre musique avec le FEMOA, le Festival des Musiques Urbaines à Abidjan, la fête bat son plein. Les sports, le football, la Ligue des Champions Européennes, Arsenal PSG et Barcelone Inter Milan. Voilà les affiches des demi-finales. Et puis vive émotion après la mort tragique en Chine de l'international gabonais Aaron Boupanza, tombé du 11e étage de son immeuble. C'est une première depuis le coup d'État qui a renversé le président nigérien Mohamed Bazoum en juillet 2023. Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria a effectué une visite officielle à Niamey ce mercredi. Youssouf Maïtana Tougar a été reçu par son homologue nigérien Bakary Yahou Sangaré. Réunion à huis clos entre les deux délégations, à l'issue de laquelle a été publié un communiqué commun. Il marque un réchauffement des relations entre les deux pays voisins. Magali Lagrange.
Relations chaleureuses, amicales, de fraternité et d'amitié. Selon le communiqué commun, c'est dans la ferveur et l'enthousiasme que le ministre nigérian des Affaires étrangères a été accueilli à Niamey. Un ton qui contraste avec la méfiance ouvertement affichée par les autorités nigériennes envers le grand voisin du Sud depuis le coup d'État. Contact renoué, les deux pays qui partagent 1500 km de frontières listent désormais les nombreux domaines dans lesquels ils veulent resserrer leurs liens. Économie et sécurité notamment, même si le Niger a quitté la CDAO et la force multinationale mixte active dans la région du lac Tchad. Redynamisation de la commission mixte nigéro-nigériane de coopération, questions énergétiques, construction du gazoduc transsaharien, Niamey et Abuja veulent aussi unir leurs forces pour combattre le terrorisme. Les deux ministres se donnent rendez-vous au Nigeria pour une prochaine visite dont la date n'est pas encore fixée. Le chef de la diplomatie nigériane n'a en revanche pas vu le général Abdourahmane Tchiani à qui il apportait un message du président Bola Tinubu, message qu'il a finalement transmis au premier ministre nigérien Ali Mahamane Laminzen.
La crise entre Paris et Alger, l'Algérie dit prendre acte de la décision de la France de rappeler son ambassadeur et d'expulser 12 agents consulaires algériens. Pour Alger, la crise actuelle est le résultat, je cite, d'une machination de Bruno Retailleau, le ministre français de l'Intérieur. En réaction, Alger n'écarte pas l'idée de prendre de nouvelles mesures en fonction du principe de réciprocité. Le dialogue entre Paris et Alger est donc au bord de la rupture et les initiatives de rapprochement qui ont été lancées ces derniers jours sont toutes à l'arrêt. Pierre Firsion.
Tout est à nouveau à l'arrêt entre les deux pays. La visite à Alger du ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, pour tenter de relancer la coopération judiciaire, n'est désormais plus à l'ordre du jour. Également stopper les initiatives récemment lancées par les acteurs économiques, Rodolphe Saadé, le patron de l'armateur CMA-CGM, a, selon le site Africa Intelligence, renoncé à se rendre mardi à Alger. En sens inverse, le CREA, un syndicat patronal algérien, a préféré annuler sa venue à Paris début mai. En mai également, la commission mixte d'historiens était censée reprendre ses travaux. La partie française de la commission avait, selon nos informations, envoyé une invitation officielle à son homologue algérienne, avec pour objectif la tenue d'une réunion à Aix-en-Provence pour parler archives et restitution de biens historiques. Mais l'initiative est désormais à l'arrêt, les historiens algériens n'ayant pas répondu à cette invitation. Sur tous les fronts, le dialogue est donc rompu. Pourra-t-il reprendre à court ou moyen terme? C'est le souhait formulé par Jean-Noël Barrot. Le ministre français des Affaires étrangères a appelé à revenir à un dialogue franc, lucide et exigeant avec les autorités algériennes. Une reprise des discussions qui nécessitera certainement du temps, tant la poussée de fièvre aura été soudaine et violente.
Et c'est dans ce contexte de tension entre Paris et Alger que le Premier ministre François Bayrou a reçu ce mercredi des membres du comité de soutien de Boualem Sansal. L'écrivain franco-algérien, âgé de 75 ans, est incarcéré en Algérie depuis la mi-novembre. Il a été condamné le 27 mars à 5 ans de prison pour atteinte à l'intégrité du territoire algérien. RFI 22h35 à Conakry en Guinée, des remous à l'ouverture du procès en appel de l'opposant Aliou Ba, le président du mouvement démocratique libéral. Le public s'est vu interdire l'accès au tribunal. Des sympathisants de l'opposant, des journalistes mais aussi des diplomates occidentaux sont restés bloqués à l'extérieur du bâtiment dans lequel plusieurs jeunes avaient fait irruption. Maître Hadi Kalissa Diallo, l'un des avocats de la défense, dénonce une entrave à la justice.
Il s'est passé ce matin un acte hautement déloyal de la part de qui, on ne sait pas. Mais on ne dirait pas la complicité du parquet, mais dans son indifférence. Ils ont bouclé tout le périmètre de la cour d'appel. Ils ont estimé qu'aujourd'hui, ils vont filtrer les entrées. Et donc, malgré ça, ils ont fait entrer des jeunes dès 7h du matin. Certains de nos confrères étaient déjà là, ils l'ont constaté. Moi, à mon arrivée, je prenais un café, quelqu'un m'a dit, ils ont fait entrer des jeunes. J'ai dit, mais de quels jeunes parlez-vous? Je suis allé, j'ai effectivement constaté qu'il y a des jeunes qui ont rempli la salle. L'objectif, c'était quoi? C'est de dire que désormais, la salle est remplie, que plus personne ne pourra entrer. Donc, c'est une façon d'exclure de ce débat public les médias et les militants et sympathisants de M. Ba, ainsi que les diplomates. Même les diplomates n'ont pas pu y accéder. Et donc, nous, face à cette situation, on a dit que c'est intenable. Parce que non seulement il y a des questions de sécurité qui se posent, nous ne pouvons pas plaider devant des inconnus et qui n'ont aucun intérêt à participer à ce procès. Mais nous ne pouvons pas maîtriser le fait que ces jeunes-là peut-être sont venus pour créer des troubles, pour provoquer des gens. Pourquoi tout ce tralala? Pourquoi tout ce cirque? Pourquoi tous ces incidents? Alors qu'il suffit simplement d'aller dire le droit.
Propos recueillis par Mouktar Ba à Conakry. C'est sa première visite en République démocratique du Congo depuis qu'il a été nommé médiateur de l'Union africaine dans la crise dans l'est du Congo. Fort Niasingbe, le président togolais, s'est rendu à Kinshasa ce mercredi où il a rencontré son homologue Félix Tshisekedi. Une prise de contact mais aucune déclaration à Kinshasa.
Selon nos informations, le président togolais, accompagné de son ministre des Affaires étrangères, est arrivé vers 16h30 à l'aéroport de Ndjili. Il s'est directement rendu à la cité de l'OUA sur les hauteurs de Ngaliema, où se trouvent les bureaux du président Tshisekedi pour une première rencontre entre les deux hommes depuis la nomination officielle de Fort Niasingbe comme médiateur de l'Union africaine. Un tête-à-tête de 2 heures dont rien n'a filtré, confie une source à la présidence congolaise. Pas de déclaration à la sortie. La RDC prend acte de cette désignation et on espère que cela va rapidement mettre fin au cycle de violence, fait-on savoir à Kinshasa. Fort Niasingbe a quitté la capitale dans la soirée. C'était surtout une prise de contact pour celui qui hérite d'un dossier complexe où il n'est en plus pas le seul à s'occuper de la médiation, puisque le Qatar, après avoir organisé en mars une rencontre entre les deux présidents congolais et rwandais, anime les discussions entre le M23 et Kinshasa, et que les deux régions est-africaines et Afrique australe ont-elles nommé 4 co-facilitateurs pour suivre ce dossier. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Et on a appris ce soir que le Paris Saint-Germain et le sponsor Visit Rwanda prolongeaient leur partenariat jusqu'en 2028. Le club parisien fait la promotion du Rwanda sur ses maillots depuis 2019. Un sponsor qui fait polémique avec l'aggravation du conflit dans l'est de la RDC. Une pétition pour l'arrêt du partenariat a même été lancée par des supporters du Paris Saint-Germain. En Angola, le Front de libération de l'État de Cabinda, le FLEC FAC, annonce un cessez-le-feu unilatéral jusqu'au 14 juin 2025 pour soutenir une proposition du parti d'opposition UNITA. Cette trêve de 2 mois annoncée vise à créer les conditions d'un dialogue avec le gouvernement angolais sur l'avenir de cette région enclavée entre le Congo-Brazzaville et la RDC. Le président du FLEC FAC, Emmanuel Zita, joint par Lisa Fabian.
Évidemment, le cessez-le-feu de 2 mois est une expression de bonne volonté vis-à-vis du gouvernement occupant angolais et vis-à-vis de l'UNITA pour nous permettre de réfléchir afin d'imaginer quelle paix il faudrait pour le peuple cabindais et pour le peuple angolais. L'UNITA a déjà déposé, paraît-il, la demande de modification de la Constitution en reconnaissant l'autonomie très large au Cabinda. L'Angola occupe illégalement ces territoires. Depuis des décennies, nous tentons de parler avec les Angolais. Nous avons lancé 4 propositions nous-mêmes Il est bien spécifié dans cette expression de cesser le feu. Toute violation des territoires d'où nous occupons peuvent être objet de légitime défense.
Et les responsables du bureau politique du MPLA estiment que ce cessez-le-feu n'a pas de sens puisqu'il n'y a pas de conflit armé dans le Cabinda. Fin de citation.
RFI à Bangui. 99.8 FM.
Bangui, gare à la pluie. En Centrafrique, la direction générale de la météo annonce de fortes précipitations dans les prochaines semaines. La situation oblige de nombreux habitants des quartiers riverains situés au sud-ouest de la capitale centrafricaine à se mettre en ordre de bataille pour prévenir les inondations. C'est un reportage de Rolf-Steph Domialeux.
Ce matin, de gros nuages noirs se forment dans le ciel. En remontant vers les quartiers riverains sur la berge en face de l'île aux singes, l'eau s'infiltre progressivement dans les quartiers. Saturnin est sur ses gardes.
Quand il pleut, l'eau rentre directement dans notre maison. Nous sommes en train de faire le curage des caniveaux afin de libérer les déchets et la boue. Beaucoup de maisons fragiles ont déjà été détruites par les eaux.
Junior vit avec sa famille au quartier de Kolongo depuis 2023. La fondation de sa maison est complètement dans la boue malgré sa hauteur. Le jeune informaticien est sur le point de déménager.
La zone est assez marécageuse et chaque année, nous subissons d'importants dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Trop, c'est trop. Nous avons décidé de quitter le secteur.
D'abondantes précipitations sont attendues dans les prochains jours selon Rodrigue Lelon, directeur général de la météorologie centrafricaine.
Du mois de mars, avril, mai jusqu'au mois de juin, on doit s'attendre à des précipitations beaucoup plus soutenues que d'habitude. Je demande aux Centrafricains de suivre quotidiennement le journal Météo qui va leur permettre en fait de planifier leurs activités irrelatives.
La Direction générale de la météorologie précise également que toutes les régions du pays sont en proie à la montée des eaux. Cette situation menace fortement la bonne marche des activités agricoles. Rolf-Steph Domialeux, Bangui, RFI.
Le football, vous l'avez suivi sur nos trentaines ce soir lors d'une émission spéciale. On connaît désormais les quatre équipes qualifiées pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Ce mercredi soir, Arsenal n'a pas tremblé sur la pelouse du Real Madrid pour valider son billet après sa victoire 2-1. Et de son côté, l'Inter Milan s'est fait secouer à domicile par le Bayern Munich, mais poursuit l'aventure grâce à un ancien joueur de l'écurie bavaroise. Résumé de cette soirée avec Sofiane Amazian.
Benjamin Pavard se souviendra longtemps de cette soirée d'ivresse à Giuseppe Meazza. Le champion du monde français, cadre du Bayern entre 2019 et 2023, a marqué face à son ancien club. Vainqueur 2-1 à l'aller, les interistes ont été coupés dans leur élan par l'ouverture du score bavarois signé Harry Kane. Mais les locaux ont réagi coup sur coup. Lautaro Martinez, opportuniste sur coup de pied arrêté, puis Benjamin Pavard de la tête au point de pénalty. Premier but de sa carrière à l'Inter pour le défenseur central qui tombe à pic. Score final 2-2, le Bayern a égalisé en fin de match, en vain. L'Inter, finaliste malheureux en 2023, retrouve les demi et le FC Barcelone. Eux ont attendu 16 ans pour atteindre de nouveau le dernier carré de la Ligue des Champions. Arsenal fait de nouveau partie des grands d'Europe, qualification nette et sans bavure face au tenant du titre, le grand Real Madrid. Prudent au Santiago Bernabéu après leur succès 3-0 la semaine dernière, les Gunners sont facilement éteints les velléités adverses. Les coéquipiers du milieu de terrain ghanéen Thomas Partey ouvre même le score par Bukayo Saka d'un beau piqué. Le but de la révolte de Vinicius Junior ne change rien car Gabriel Martinelli enterre les espoirs madrilènes en fin de match. Victoire 2-1 sans contestation. Prochaine cible, le Paris Saint-Germain.
Voilà, et ce sera le mardi 29 avril, Barcelone, Inter Milan, Inter du Milan et Arsenal PSG, demi-finale aller. Les matchs retour sont prévus le 6 mai. Et puis on a pris également la disparition tragique d'un international gabonais, Aaron Boupenza, qui est mort hier en Chine. L'attaquant de 28 ans est tombé du 11e étage de son immeuble. Les circonstances exactes de sa mort n'ont pas encore été établies. Né à Moanda, Aaron Boupenza avait évolué en France, notamment aux Girondins de Bordeaux, mais aussi en Turquie, au Qatar, aux États-Unis, en Roumanie, avant de rejoindre en janvier le club chinois du Zhejiang FC. International à 35 reprises, il aura inscrit 8 buts sous le maillot des Panthères. Plusieurs de ses coéquipiers, très touchés par cette triste nouvelle, lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux, à l'image de Mario Lemina ou encore de Pierre-Emerick Aubameyang. Écoutez l'émotion du président de l'association des footballeurs gabonais, Roser Morvan Donda.
Un décès qui nous a tous complètement bouleversés, tellement inattendu. un talent énorme et précoce qui s'en va comme ça. C'est terrible pour nous, c'est terrible pour la famille. Je pense à son père, à sa mère, à ses oncles que je connais très bien. Quelle douleur! Ce qui me rend encore plus triste, ce sont les circonstances de sa mort. Lorsqu'on ne comprend pas ce qui a bien pu se passer, c'est difficile d'accepter. Donc, je prie que l'enquête en cours puisse nous révéler ce qu'il s'est réellement passé. Vraiment, c'est un espoir perdu pour le football gabonais. Paix à son âme.
Voilà des propos recueillis par Fritz Koum. Vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, minuit 45 ici à Paris. Direction le Congo, Brazzaville pour Afrique Éco. Les zones agricoles protégées ont été lancées par les autorités en 2021. L'objectif était de diversifier l'économie. Loïcia Martial s'est rendue à Bouansa, dans le sud du pays, où la zone agricole est consacrée à la culture du maïs. Et c'est la première récolte cette année.
Dans la plaine de Bouansa, les paysans de la zone agricole protégée, tous de vert vêtus, observent le travail de la moissonneuse batteuse sur près de 60 hectares de maïs. La superficie étendue a été cédée par l'État aux agriculteurs de la région pour qu'ils y plantent la céréale. L'un d'eux, Alain Roger Mabika, a été désigné président de la zone agricole protégée. Il espère que les rendements progresseront avec les années.
Bien, ici nous n'avions produit que le maïs, rien d'autre que le maïs. En dehors du maïs, nous n'avons rien produit d'autre. L'estimation, on peut dire, déjà par hectare tel que je vois là, par hectare nous pouvons faire au moins 3 tonnes. Et si nous prenons 3 tonnes par hectare, ça veut tout simplement dire que nous devons donc nous retrouver avec près de 180 tonnes que nous pouvions donc avoir ici. Et donc c'est pour nous une façon d'aider ceux-là qui font de l'industrialisation.
Après la récolte, le maïs est stocké dans un endroit bien protégé. Il sera ensuite vendu aux sociétés brassicoles et aux éleveurs qui en manquent souvent. À ce jour, les importations d'alimentation humaine et animale sont évaluées à 600-700 milliards de francs CFA. Près de 300 agriculteurs ont planté du maïs à Bouansa.
Nous produisons beaucoup ici, nous ne sommes pas des fainéants. Avec la main, nous travaillons et nous avons vraiment de la bonne production.
On plante le maïs pour nous soutenir. Ça nous aide, ça nous donne l'argent.
Les zones agricoles protégées ont déjà commencé à produire du manioc, des bananes, des tomates et du riz dans d'autres régions du Congo. Ce dont le président de la République s'est félicité à Bouansa.
Merci Mingi.
Merci de la façon dont vous avez suivi l'initiative lancée lors de la campagne électorale passée. Il faut qu'au Congo, l'agriculture aille de l'avant.
Merci Mingi.
À travers les zones agricoles protégées, les autorités espèrent lutter contre le chômage, contre la sous-alimentation et diminuer la facture des importations alimentaires. Loïcia Martial, de retour de Bouansa, RFI.
Avant de partir au Fémoa à Abidjan et d'écouter de la musique avec Pierre Vallée, nous allons parler de photos puisque le photographe congolais Aubin Moukoni fait partie des heureux lauréats du prestigieux World Press Photo 2025. Le prix lui a été attribué pour un reportage photographique sur la pollution du lac Kivu. Le jury a salué son travail dans un contexte de tension croissante entre le Rwanda et la RDC. Le lac Kivu, à la fois source de subsistance, lieu de transport et réserve stratégique, est aujourd'hui menacé par la pollution et le changement du climat. Il est aussi le témoin silencieux de l'instabilité qui secoue la région. Aubin Moukoni, interrogé par Patient Legaudy.
J'ai présenté un projet sur le lac Kivu, un projet que j'ai commencé en 2020, qui témoigne des défis environnementaux auxquels ma région fait face.
Cette pollution est due à quoi et quelles sont les conséquences de cette pollution sur le lac?
La pollution du lac Kivu est due sur les faits où il y a des personnes qui ne trouvent pas où jeter leurs déchets. Et voilà, ils trouvent le lac état comme un moyen pour eux, là où ils peuvent déposer leurs déchets, ce qui peut causer bien sûr des problèmes environnementaux sur le lac Kivu, des petits poissons qui commencent à devenir très rares. Du coup, sur l'économie de la ville, ça fait partie des conséquences sur la pollution du lac Kivu, parce que quand il y a des petits poissons de Sambaza qui commencent à devenir rares, le prix va monter et voilà, c'est la population qui sera toujours victime de ces actes.
Parlons un peu de vous. Comment vous définirez votre rôle dans la société en tant que photographe?
Je fais juste du plaidoyer, c'est tout ce qui se passe à travers l'art de la photographie. Et à travers mes images, je cherche à être peut-être le catalyseur de là où on peut discuter sur les défis autour de tout ce qui se passe dans ma communauté. Je pense que ce projet-là qui est devenu silencieux est loin d'être terminé. À travers le premier chapitre que j'ai découvert, j'ai vu des multitudes d'histoires, des défis et des nuances qui méritent d'être encore explorées. Alors, je pense que mon ambition est de continuer avec ces projets qui transcendent en fait les barrières en devenant une archive visuelle, peut-être pour les générations futures. Je dirais que ce projet est pour moi un engagement sur un long terme.
Voilà Aubin Moukoni, qui fait partie des lauréats du prestigieux World Press Photo 2025. Il répondait à Passion Ligodi. Et nous partons à présent à Abidjan, hein, comme on vous l'a annoncé. Abidjan qui vibre au rythme du 17e Fémois, le festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Événement qui a pour ambition de partager la musique en éveillant les consciences. Cette année, c'est le thème du civisme et de la sécurité routière qui a été retenu. Angélique Kidjo, Smarty ou encore Takana Zion sont programmés. Guillaume Thibault, lui, a croisé la route de Lil J, chanteur ivoirien. Il sera sur la grande scène du FEMUA vendredi.
L'homme est aussi grand que son sourire et si bienveillant que la causerie pourrait se prolonger toute la nuit. Lil J, Conan Angelo Wilfried à l'état civil, transpire l'intégrité.
On a des choses toujours à apprendre. Il faut être passionné, il faut aimer ce que tu fais.
Dans un pays où le rap est roi, Lil J a été inspiré par les musiques du passé et par les virées dans la voiture de son père.
Et Monsieur Conan Kwasi René, dans sa voiture, il mettait beaucoup de djembe piano. Et moi, quand j'ai commencé à écouter la musique, j'écoutais pas la musique de mon époque. J'écoutais du Salif Keïta, bizarrement. Youssou N'Dou, Alpha Blondy, Tikenja. Je pense que ça a aussi impacté aussi ma manière de voir la musique.
Conan, tu vas manquer à mon...
Natif de la populaire ville de Bingerville, Lil J tient au respect, à l'éducation des plus jeunes, en leur rappelant qu'en travaillant dur, réaliser ses rêves devient possible.
On a eu un peu d'argent et on sort un peu de vacances. C'est les épices de la vie. On a travaillé toute l'année, on sort de vacances en fin d'année, c'est les épices. Sans ça, c'est pas doux, tu vois. Et les rêves se réalisent lorsqu'on commence à travailler.
Ah, c'est pas tout. Vendredi, on donne plus conseil, mon ami. Attends lundi, on a beaucoup travaillé. Maintenant, on peut penser.
Guillaume Thibault, Abidjan, RFI.
Minuit 52, ici à Paris, vous êtes bien sur Afrique Soir.
Afrique Soir.
Et c'est le moment d'Afrique Soir de vous retrouver, Pierre Vallée, pour notre rendez-vous musique. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous.
Et vous nous parlez ce soir du groupe Kokoroko.
Oui, un groupe anglo-nigérian que l'on rangera dans la catégorie jazz, même si sa musique est à l'image de Londres où vivent les musiciens, très cosmopolite, nourri de multiples influences, Caraïbes, Asie, Amérique. Un groupe qui met en avant les cuivres, ce qui se comprend assez facilement de la part de musiciens d'origine nigériane et qui donc ont inévitablement été biberonnés à l'afrobeat de Fela.
Un groupe de jeunes donc qui a émergé pourtant il y a quelques années.
Oui, il s'est fait remarquer un peu après la crise du Covid avec un excellent morceau, Abusé Junction, que je vous conseille vivement d'aller écouter sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis ils ont sorti ensuite une série de singles et un album, un seul album j'ai envie de dire, mais ça leur ressemble assez, un groupe qui prend son temps avant de sortir un disque plutôt que d'envoyer une rafale de disques.
Et donc ce groupe Kokoroko vient de sortir un nouveau disque.
Oui, un simple qui s'appelle Sweetie, sur lequel on retrouve les ingrédients qui font son succès. Un groove chaloupé, des cuivres puissants et de jolies voix féminines. Un morceau qui annonce la sortie d'un deuxième album qui est annoncé pour le mois de juillet. Et soyez assurés que je ne manquerai pas de vous parler de ce disque. J'en profiterai aussi pour vous parler un peu plus, vous en raconter un petit peu plus sur ce groupe qui mérite vraiment qu'on s'intéresse à lui.
We'll be right back.
C'est sur ce groove chaloupé, comme dit Pierre Vallée, que nous allons nous quitter, refermer cette dernière édition d'Afrique Soir. Un grand merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée. Merci à toute l'équipe, à la réalisation. Raphaël Lazizi, bonne soirée. Restez à l'écoute. L'info revient dans quelques instants sur la Radio du Monde.
Préparez-vous à découvrir le futur du stand-up africain. Avec le podcast La Relève du Rire, plongez au cœur de Mon Premier Montreux, le grand casting de l'humour lancé dans 10 pays d'Afrique francophone. Chaque semaine, découvrez un nouvel épisode avec les meilleurs sketchs et l'énergie débordante des humoristes de demain. Alors, d'où viendra la prochaine pépite du stand-up africain ? La Relève du Rire, c'est votre dose hebdomadaire de bonne humeur. Disponible sur RFI.fr, l'application RFI Pure Radio et toutes les plateformes d'écoute.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Allergies, une part croissante de la population mondiale est concernée.
Vendredi.
Questions de femmes, questions de parents, le paludisme chez les enfants.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Demain sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
Si l'on dit Verdi, vous pensez musique et Italie. C'est oublier que l'un de ses principaux opéras, Don Carlos, a été créé à Paris en français. À l'époque, au 19e siècle, le français et Paris ont une influence considérable dans la vie culturelle européenne.
Écoutez de vive voix avec Pascal Paradou du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.